Bon réveil, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Les attentats de janvier 2015 devant la justice. Un procès pour l'histoire s'ouvre aujourd'hui, mais un procès de lampistes, diront certains. Après la mort des tireurs, 14 personnes sont jugées pour complicité. Nous en analyserons les enjeux dans un instant.
Et puis nous évoquerons ensuite la une de Charlie Hebdo ce matin. Le journal satirique republie les caricatures de Mahomet. Nous poserons la question d'une éventuelle provocation.
Nous irons au Liban où se trouvait jusqu'à hier soir Emmanuel Macron. Les dirigeants du pays lui ont indiqué qu'ils s'efforceront de former un nouveau gouvernement dans les 15 jours.
Et puis, quelle formation pour les élus de la République en France ? Un décret leur permet d'y avoir accès plus rapidement, son mérite et ses limites dans ce journal.
À suivre ensuite, le billet politique. Ce sera dans un quart d'heure. Frédéric Seiss analysera ce que révèle le désaccord entre Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti sur le thème de l'insécurité. Trois journées d'horreur qui avaient sidéré la France. C'était il y a plus de 5 ans et demi, les attentats de janvier 2015. De la fusillade dans les locaux de Charlie Hebdo, à la mort d'une policière municipale à Montrouge, jusqu'à la prise d'otage dans l'épicerie juive hyper cachère Porte de Vincennes. 17 morts au total et aujourd'hui 200 parties civiles. Le procès de ces attentats commencera tout à l'heure à 10h devant la cour d'assises spéciale à Paris. Il doit durer 2 mois. Les auteurs qui avaient été tués par les forces de l'ordre à l'époque ne seront donc pas à ce procès, évidemment. Il s'agira de juger 14 accusés, Florence Turm.
14 accusés, dont 11 présents dans le box, poursuivis pour avoir aidé les terroristes, notamment en leur fournissant des armes. Mais connaissaient-ils leurs intentions ? C'est tout l'enjeu de ce procès pour Marie Dosé, l'une des avocates de la Défense.
L'enjeu de ce procès, comme de tous ces procès fleuves en matière antiterroriste, dont les auteurs sont les grands absents, tient moins finalement à la manifestation de la vérité qui se joue et qui s'est jouée ici à l'instruction qu'à la parole qui est judiciairement donnée à celles et ceux qui ont vécu ces attentats dans leur chair. Moi je ne dis pas que le box des accusés est vide, mais ceux qui vont l'occuper pendant 2 mois sont loin du passage à l'acte. Ils sont loin de ces attentats et du dessein criminel des grands absents de ce procès.
Une analyse contre laquelle s'insurge maître Patrick Gluckmann, il représente 12 otages survivants de l'hypercachère.
Je vous rappelle cette belle phrase de Mirabeau. On accuse le bourreau, mais le pire, c'est d'être son valet. Dans le box, il y a les valets, notamment d'Amédie Coulibaly. Ce n'est pas un procès de lampiste, parce que dans un acte de terrorisme, il n'y a pas de lampiste. Et si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien. Ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que aider, armer, assister un terroriste, c'est gratuit ?
Question récurrente de ces dossiers terroristes, elle s'est déjà posée lors des 2 procès d'Abdelkader Mera, le frère du tueur de Toulouse et Montauban, condamné en appel pour complicité d'assassinat. Mais la même cour n'a pas retenu l'association de malfaiteurs terroristes à l'encontre de Feta Malki, le petit délinquant qui avait fourni une arme et un gilet pare-balles.
Débat primordiaux donc pour établir les faits et les responsabilités des 14 accusés. Pendant les 3 premières semaines de ce procès, ce sont les victimes et les familles de victimes que l'on va entendre. Parmi elles, Alain Coinon, 74 ans, ancien diplomate. Il est entré dans l'hypercachère Porte de Vincennes le 9 janvier 2015 pour faire une petite course. Il en ressortira 4 heures plus tard, après avoir assisté au meurtre de 4 personnes, mais aussi à l'interrogatoire que leur a imposé le terroriste Amédie Coulibaly. Au micro de Florence Turm aujourd'hui, Alain Coinon raconte.
Il nous a demandé à tous notre nom, âge, profession et origine. Donc tous les gens se sont présentés. Évidemment, c'était tous des juifs, ou presque tous. Puis est arrivé à moi, j'étais le dernier de la file. Donc j'ai répondu à ces questions, mais j'ai buté sur la dernière question. Et je ne savais pas quoi répondre. J'ai dit, français. Et de lui-même, il m'a dit, catholique. J'ai dit oui, je suis catholique, mais honnêtement, aujourd'hui, ça signifie pas grand-chose pour moi, être catholique. Et pourtant, quand je réfléchis à ce très court dialogue, je me dis, mais c'est pour ça que je vais mourir. Je vais mourir parce que j'ai pas la même origine que lui. Et mes compagnons juifs, ils vont mourir aussi pour ça. Je pense très souvent, quand je me souviens de ce moment, à une phrase terrible de la philosophe allemande Anna Arendt sur le génocide des juifs. Elle dit « ils les tuent, non pas pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont ». C'est-à-dire quelque chose auquel on ne peut rien. Ça me fait souvent penser à l'arrivée des Juifs à Auschwitz. Il y avait une file, un interrogatoire, très bref. Et puis toi, tu vas à droite, toi, tu vas à gauche. À droite, c'est la chambre à gaz. À gauche, c'est le bagne et l'enfer avant de passer à la chambre à gaz. Et pour moi, Koulibaly, c'est un SS musulman.
Koulibaly abattu par les forces de l'ordre ce jour-là, le 9 janvier 2015. Quelques minutes plus tôt, les frères Kouachi l'avaient été également abattus dans une entreprise, dans une imprimerie de Seine-et-Marne. Les frères Kouachi qui s'en étaient pris quelques jours plus tôt à la rédaction de Charlie Hebdo, l'accusant notamment d'avoir publié des caricatures du prophète Mahomet. Ce matin, à la une de Charlie Hebdo, ces mêmes 12 dessins, initialement publiés dans un quotidien danois. Un message salué par l'essayiste Caroline Forest, ancienne journaliste à Charlie Hebdo.
C'est à la fois juste et courageux. C'est la une que ferait n'importe quel journaliste qui sait qu'il faut inlassablement répéter les faits, le contexte, et notamment une génération qui le comprend de moins en moins, face aussi aux propagandes, aux confusions entretenues pour essayer de réécrire l'histoire. C'est important pour des journalistes d'entretenir la mémoire et le respect des faits. Et les faits sont simples, cruels, dans toute leur vérité. Des gens sont morts pour avoir fait leur métier, qui était d'informer sur une polémique partie de la volonté de défendre la liberté d'expression et absolument pas d'inciter à la haine.
Est-ce qu'il y a une part de provocation derrière cette une ?
Il n'y a aucune provocation derrière cette une. Pas plus qu'au moment où nous avons publié ces dessins pour informer sur la polémique mondiale qui était en train de monter, sur les menaces de mort qui étaient en train de pleuvoir sur des dessinateurs et des journalistes danois pour avoir fait leur métier. Ça n'est pas une provocation que de penser, que de réfléchir et que d'informer. Et chaque fois qu'on le laisse penser, on baisse un genou à terre, on laisse croire à ceux qui s'empourprent et s'offusquent d'absolument tout et n'importe quoi, qu'ils sont dans leur bon droit. Non, empêcher de penser, c'est ça qui est très, très, très choquant en réalité.
C'était Caroline Forest, interrogée par Antoine Marette à propos de la nouvelle publication de ses caricatures. Retrouvez d'ailleurs un article complet sur le sujet sur notre site franceculture.fr parmi les nombreuses pages que nous avons consacrées au procès à venir. J'ajoute deux réactions aux dimensions internationales, deux réactions à ces publications de caricatures. La première venue du Pakistan hier soir, le ministre des Affaires étrangères y voit un acte qui heurte, je cite, les sentiments de milliards de musulmans. Depuis le Liban, Emmanuel Macron a lui estimé qu'il y a en France une liberté de blasphémer. Emmanuel Macron au Liban, donc 8h07, Guillaume Erner.
Je voulais donner l'heure quand même, c'est important.
Emmanuel Macron était au Liban jusque tard hier soir. Visiblement, il y a réussi à convaincre les chefs politiques de former un nouveau gouvernement, et ce, dans les 15 jours qui viennent. Fin octobre, une conférence internationale de soutien au Liban sera organisée à Paris. Preuve encore de la place qu'occupe le président français dans ces négociations, Christian Chesneau.
Paris gagné pour Emmanuel Macron, qui a réussi à faire accepter son nouveau pacte aux forces politiques libanaises. Après des entretiens en tête-à-tête avec les caciques du système à la résidence des Pins, le président français a annoncé un accord sur le calendrier à tenir. Avec un premier rendez-vous, le Parlement devra approuver le nouveau gouvernement d'ici 15 jours.
J'ai juste dit aux intéressés, si ce sont les mêmes au même poste, il y a peu de chances que ça produise un résultat différent. Qu'est-ce qui change là ? Des réformes claires, un agenda à un mois, trois mois, et un engagement de toutes les forces politiques derrière cet agenda de réforme, au gouvernement, au Parlement. Et la deuxième chose, c'est de dire, le Premier ministre désigné va constituer un gouvernement de gens probes, connaisseurs de leur secteur et de l'administration, et donc compétents. Et ce qui change, c'est qu'ils ne seront pas les représentants chacun de la force politique qui est là, elles vont adouber un tout. Ensuite, la feuille de route, je leur ai dit, vous pouvez avoir confiance, il ne faut pas que vous ayez votre espion dans le gouvernement, parce que la feuille de route, c'est la vôtre.
À côté du volet politique, un agenda économique a également été validé par les chefs de parti concernant l'électricité, le contrôle des capitaux et l'audit de la Banque centrale. L'exigence commence maintenant et je ne vous lâcherai pas, a martelé Emmanuel Macron, qui a promis de revenir au Liban en décembre.
Le président français s'envole maintenant pour l'Irak pour la première fois en 2 ans et demi, dans l'idée toujours de mieux lutter contre les cellules dormantes du groupe État islamique en Irak. Il a dirigé l'un des plus grands centres de torture du régime des Khmers Rouges au Cambodge, la prison S21. L'ancien tortionnaire Douche est mort aujourd'hui à l'âge de 77 ans. Notre revue de presse internationale s'en faisait l'écho ce matin, à retrouver sur le site de France Culture et en podcast. Donald Trump qualifie les émeutes de Kenosha de terrorisme intérieur. Le président américain était hier dans la ville du Wisconsin, là où, il y a 10 jours, Jacob Blake, afro-américain, avait été grièvement blessé par un policier blanc qui lui a tiré dans le dos à 7 reprises. Depuis, les manifestations s'enchaînent entre partisans et détracteurs de la politique de Donald Trump. Omar Waman nous raconte sur place.
Le face-à-face dans le centre-ville de Kenosha a duré plusieurs heures. D'un côté, les militants de Black Lives Matter pour qui il ne peut y avoir de paix sans justice, et de l'autre, les partisans de Donald Trump qui réclament 4 années supplémentaires. Les échanges sont virulents, les insultes fusent, chacun campe sur ses positions.
But there's so much hate.
Cette artiste venue de Chicago se tient la tête.
Both sides hate each other.
Au bord des larmes, elle déplore ce climat de haine, cette situation qui ne fait qu'empirer. Elle n'a jamais vu ça.
I have never seen this in my lifetime, not ever.
But here we go. The president is here.
Puis apparaît l'immense cortège du président Donald Trump. Le dispositif de sécurité est tout aussi impressionnant. Ses soutiens exultent.
President's in Kenosha, Wisconsin. I've seen Donald Trump.
Jane, entourée de sa famille, croit avoir vu le président américain faire un signe de la main. Elle est venue pour cet instant furtif, dit avoir sorti ses enfants de leur lit avant de les habiller et d'attendre de longues heures. C'est incroyable.
That's amazing.
La ville s'est barricadée de peur de nouvelles violences qui finalement n'auront pas lieu. Et la visite express s'est terminée sous les vivas des uns et la bronca des autres.
C'était Omar Waman, notre envoyé spécial à Kenosha.
8h11 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Un an après la mort violente du maire de Signes dans le Var, des élus subissent toujours des agressions.
Les violences ne se sont pas taries. Preuve en est ces chiffres de l'Association des maires de France. Au moins 233 maires ont déjà subi un acte de violence depuis le début de l'année. 233 contre 198 l'année dernière au même moment. Aujourd'hui, mercredi, le Premier ministre Jean Castex organise une réunion interministérielle à Matignon sur ce sujet. Les élus qui souhaitent aussi être mieux formés pour leur mission, l'être surtout plus rapidement. Sur les 509 000 élus que compte notre paysage politique en France, ils ne sont actuellement que 3% à suivre annuellement une formation. Depuis hier, un décret est paru, Anne Fauquemberg, et ce droit sera automatique pour chaque élection grâce à ce décret.
Depuis 2015 et la création d'un droit individuel à la formation pour les élus locaux, ceux qui obtenaient pour la première fois un mandat devaient attendre un an avant de pouvoir ouvrir leurs droits. Une aberration alors que dans les petites communes, les maires, souvent inexpérimentés, ont besoin de mieux comprendre les rouages administratifs. En témoigne Stéphane Rode, 33 ans, élu en mars dernier à Ranspach-le-Haut, un village de 600 âmes à la frontière avec la Suisse.
C'est quelque chose qui est pour moi assez inconnu puisque je travaille dans le privé. Et en plus, je travaille de l'autre côté de la frontière, donc c'est encore pire pour moi, on va dire, parce que je connais vraiment rien dans l'administration française. Moi, j'ai eu la chance d'avoir le budget qui a été voté avant ma prise de fonction, donc j'ai été épargné pour ça. Mais par exemple, le budget pour l'année prochaine, j'aimerais bien savoir exactement comment ça fonctionne. Toutes ces questions aussi de l'agglo, etc. J'ai un manque.
Reste à s'y retrouver parmi ces près de 200 structures de formation, certaines proches des partis politiques, d'autres purement privées. Bien souvent, les associations d'élus aiguillent les maires vers ces organismes qui doivent disposer d'un agrément et qui sont recensés sur le site de la Direction Générale des Collectivités Locales. Et avec le nouveau décret, les formations sont désormais plafonnées à 100 euros de l'heure. L'Inspection Générale de l'Administration avait relevé depuis 2017 une inflation des prestations jusqu'à 480 euros l'an passé, avec une concentration des crédits dans 2 organismes. Depuis, ces structures se sont regroupées en syndicats professionnels, la FNOFEL, ce qui permet au gouvernement d'avoir un interlocuteur pour poursuivre sa réforme, notamment renforcer de futures modalités de contrôle.
La Nouvelle-Calédonie se protège un peu plus du nouveau coronavirus. L'archipel va garder ses frontières fermées au moins jusqu'à la fin du mois de mars l'année prochaine. Une décision du gouvernement prise hier soir. Assemblée générale ce mercredi au sein du journal Libération. Il sera question du fonds de dotation qui s'occupera du quotidien à partir de demain. Altice Média chapeaute tout cela de loin officiellement. Et le groupe promet 13 millions d'euros pour garantir l'indépendance et la modernisation du journal. Selon les salariés, ce n'est pas assez, Benoît Grossin.
Les salariés de Libération sont d'accord pour davantage d'indépendance, évidemment, mais à condition d'avoir des garanties sur la pérennité économique et éditoriale de leur journal dans le transfert à venir. Les besoins de financement sont nettement sous-évalués pour Jérôme Le Filiatre, élu du personnel au CSE.
Le passage de Libération du groupe Altice à un fonds de dotation pour une presse indépendante lui-même va occasionner des frais exceptionnels, une clause de cession qui permet aux journalistes de partir avec des indemnités en cas de changement d'actionnaire, mais aussi un déménagement. Tout ça, ça coûte de l'argent, donc ça va grever, entamer cette enveloppe. Et puis, tout ça s'inscrit à un moment où on a une nouvelle direction de la rédaction qui va se mettre en place après le départ de Laurent Geoffrin. Un nouveau directeur va être nommé dans les semaines qui viennent, avec des projets éditoriaux nouveaux, avec des ambitions, des investissements à faire, technologiques notamment. On va avoir un nouveau logiciel qui coûte très cher. Tout ça suppose qu'on soit soutenu financièrement. 13 millions d'euros, c'est très insuffisant. De notre point de vue, nous, les salariés de Libération, il faut le double pour les 3 ans qui viennent, pour revenir à l'équilibre financier, qui est la condition de notre indépendance économique et éditoriale. Et puis, on demande à ce que la rédaction, les salariés de Libération, soient associés dans la gouvernance de cette nouvelle structure.
Et les salariés de Libération réclament en priorité un représentant au prochain conseil d'administration.
C'était Benoît Grossin pour France Culture. Entre nuages et éclaircies, ce mercredi, la fraîcheur sera toujours de mise. Ce matin, il fait 11 degrés à Rennes, 13 à Strasbourg, 14 degrés à Paris et 21 à Nice.